chance, cette année, c'est une opportunité comme ça qui est arrivée, pour aborder quoi ? Ce qu'on appelle communément la voix. Et on va dire le destin de la voix, la force du destin de la voix, parce que c'est un titre de Pella Verdi, c'est un roman. Un roman à partir du roman d'un aristocrate espagnol à partir duquel Verdi avait son opéra. Nous avons la chance effectivement de. Si, pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir entendre la saison 2009-2010 au Metropolitan Opera de New York. Il suffit pour ça d'aller, selon le programme que je vous ai fait, que je vous ai distribué, d'aller dans le cinéma de Beaumont, et en direct, on a les opéras. Alors, nous avons la chance, pourquoi ? Ça a commencé samedi dernier, c'est intéressant parce que c'était Tosca, Puccini. C'est intéressant parce que ça va nous permettre un petit peu de parler de ce que c'est que le brillant de la voix. Par exemple, le samedi, il y avait un ténor qui, quand il arrivait au niveau du sol, l'âme perdait son brillant, la voix devenait plus blanche. C'est important. Alors moi, je suis très sensible à ça. Pourquoi ? Parce que c'est dans mon expérience. Véritablement actuellement, et ça pose la question de ce que transmet la voix par ce brillant. Donc c'est quelque chose de, du côté de l'expérience, le brillant est bien sûr lié aux harmoniques, hein. Et vous allez voir, ça va nous interroger sur où se fait le brillant. Ça se fait au niveau des cordes vocales, comme on dit habituellement. Pas du tout. Les cordes vocales font une espèce de magma, une espèce de murmure, de son. Mais c'est vrai que ça se fait à partir au niveau du palais dur, strié. Pour comprendre ça, prenez une balle, vous la laissez tomber sur du sable, du palais mou, vous allez voir, vous ne baissez pas. Vous la faites remonter sur du béton, sur du parquet, sur votre vaisseau. Mais c'est ça qu'il faut pour arriver à faire ce brillant des harmonies. Il faut une partie de la bouche, du palais très particulière, et toute la technique consiste justement à développer, à créer cette technique, et ça se fait pour des années et des années de travail au niveau des vocalises, au niveau des voyelles. Alors, je dis ça comme ça en introduction, ma voix est un peu particulière ce soir, elle sera à chaque fois comme ça, parce que le mardi, je fais 2h30 à 3h de chant, chant lyrique, d'entraînement, on pourrait dire, un peu comme un sportif qui freine. Et il se trouve que c'est comme ça, je pense que c'est une heure de sortie qu'elle soit comme ça, parce que justement, j'ai changé le jour, je ne pensais pas du tout à ça, puis en fait ça s'est articulé comme ça parce que j'ai changé le professeur de chant, justement, parce que celui avec lequel je travaillais, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait un voix qui paraissait sur ma voix, parce que justement cette dimension n'était pas prise en compte. Donc oui, je parle de quelque chose qui est apparu cette année dans mon périple là, et je vais parler bien sûr de ça, mais pas comme on parlerait comme ça un chanteur simplement. D'ailleurs, les chanteurs ne disent rien du tout là-dessus. Les chanteurs, ils chantent, ils ne disent rien. Mais comment on peut en parler de quelqu'un qui, de par son expérience, prend en compte ce quelque chose de particulier qui fait que, au début, il y a un langage. Il n'y a pas les chromosomes. Au début, il y a l'horreur. Même s'il y a les chromosomes aussi. C'est pas ce versant-là que je suis. Et la question d'emblée qui apparaît, c'est celle que j'ai posée comme mordant dans quelques mots que j'ai eu pour introduire le séminaire, c'est est-ce que la voix qui parle en psychanalyse depuis un peu plus d'un siècle, Est-ce qu'elle a un rapport avec la voix qui, plusieurs siècles auparavant, à la fin de la Renaissance, a conduit à cette création, cette œuvre d'art qui est le plus grand. Donc je ne vais pas faire évidemment tout ce qui est les grandes descriptions intellectuelles sur les opéras ne nous intéresse pas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et pourtant, et toutes les explications, je dirais, psychologiques sur. On va être en parler, mais il y aura en permanence ceci qui, si on place, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, c'est ça les vérités premières, hein, même la vérité première, hein, au commencement était, bien sûr, le verbe, mais le verbe au sens du logos, au sens du langage. Hein, si on parle là de cette énigme, du coup, quelque chose peut, c'est bien, c'est la dimension possible, peut jaillir ce qu'on appelle, avec Lacan, l'objet cause du désir. Et la voix comme objet cause du désir n'a strictement rien à voir avec la voix comme objet du désir. La voix comme objet du désir, c'est ce qu'on entend, c'est le sonore, c'est ce qui nous charme, tout ça, c'est l'objet du désir. Alors celle-là, elle existe, bien sûr, elle existe. Mais la voix comme objet cause du désir, c'est autre chose, c'est comme si on confondait, je prends les réponses de Lacan, parce qu'elles sont très importantes, c'est comme si on confondait l'œil et le regard. Il a bien parlé de ça, Lacan, en 1964. Hein. Nous sommes d'abord des êtres regardés, et qui va se développer du côté de l'œil, c'est-à-dire du côté de quoi, physiologique finalement, hein, va apparaître après et aura un rapport avec ce regard, on va dire, qui n'existe pas, hein, qui n'existe pas, qui est barré, hein, mais pas au sens où d'emblée on comprend ce que ça veut dire, qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Quelque chose qui n'existe pas, on le marque avec une barre, pour bien montrer que c'est très très présent, mais c'est invisible, immatériel, c'est ça, ce qui n'existe pas. Tu vas lui faire dire, la femme n'existe pas, et qu'il n'y a qu'une femme. Et on pourrait dire que, c'est très référence au féminin, sur lequel je vais beaucoup parler, je vais reprendre ça cette année, et vous savez que ça part pour l'histoire de l'opéra, vraiment de façon extraordinaire, parce que ça part de rejet des voix féminines. Dans les opéras sérias, j'emploie un certain nombre de termes, on vient là-dessus, mais je ne vais pas les développer chaque fois. Dans les opéras sérias, hein, c'est tout ce qui se passe au 17e, 18e, hein, et puis à un moment, mais c'est déjà annoncé, ça apparaît pas comme ça tout d'un coup, apparaît ce qu'on appelle l'opéra bouffe, et à ce moment-là, on sort de ce qu'était l'opéra sérias, c'est-à-dire les figures mythologiques. Tout ce qui était Rameau, Plume, tout ça, Orphée, et on arrive à quelqu'un qui est en chair et en os, et c'est notamment Mozart qui va mettre ça en route, et chez Mozart, on trouve des opéras sérias, des opéras bouffes, et aussi une autre catégorie d'opéras, c'est les opéras allemands, dont Wagner, entre autres, va montrer l'importance. Donc, oui, d'emblée, ça pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la voix dans tous ces opéras? Puisque c'est ce qui porte l'opéra, c'est ça la différence avec la musique symphonique, c'est la voix. Et que progressivement, et avant Mozart, ça apparaît, mais c'est pas encore bien défini, c'est avec Mozart que notamment on voit différencier différents types de soprano, différents types d'alto, différents types de ténors, différents types de baryton, différents types de basses. C'est à partir de son bras. Il n'y en a qu'un, et j'insiste là-dessus, qu'on trouve chez Mozart, on le trouve dans La Flûte Enchantée, Tamino, on le trouve aussi dans un autre opéra, qui est un ténor très particulier, il s'appelle le ténor dramatique. C'est pas tout à fait le ténor dramatique wagnérien, mais c'est presque ça, ce qu'on appelle le fort ténor. Donc progressivement vont apparaître une classification, mais c'est pas une classification. Il ne faut pas en rester à la classification, il faut tenir compte du fait que chaque Chaque type de bois a un brillant particulier. C'est ça qui nous intéresse. Un brillant particulier, c'est que la même note, si elle est chantée par un ténor d'un certain type, si on prend le registre, disons, le bas du ténor, le bariton, pourquoi pas une basse, ben c'est comme si vous jouiez la même note sur un violon, un piano, un instrument. Vous allez voir, c'est pas du tout le même son. C'est-à-dire que ça n'a pas la même du tout, la même, et pourtant c'est la même fréquence, c'est la même note. Tout ça qu'on utilise dans la voix humaine, dans la voix humaine, il y a bien sûr tous les instruments, l'orchestre, comme on dit rapidement, mais il y a surtout quelque chose, une énigme, qui pose la question, effectivement, de qu'est-ce que c'est que la voix, pour autant que, si on se reporte à cette chose importante, énigmatique, qui est le langage, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui caractérise, ce qui est le propre de l'être, on va plus dire humain, mais parlant, hein, l'être humain, il suffit de voir ce que ça donne, l'humanitairerie de commande, de ce qu'on fait au monde humanitaire, hein, pour masquer nos exactions éventuellement. On est tranquille, hein. On est tous pareils, il n'y a pas de fond, on ne fond pas, on pense que c'est comme ça. Mais l'être, pardon, c'est autre chose, c'est celui qui, du fait du langage, est dans une grande énigme, et c'est ça qui se passe dans la psychanalyse, du fait du langage, peut être affecté lorsque le langage l'habite, lorsqu'il l'habite lui-même, peut être affecté par quelque chose. Qui va faire quoi? Voilà. Qui va faire ce que vous m'appelez, non pas le corps. Le corps, on le connaît, c'est anatomique, c'est tout ça, c'est la médecine, la psychologie. Mais un corps, qu'est-ce que c'est un corps? Et là, je fais référence, je vais essayer de rapprocher la question de un corps de celui d'une voix. Donc, la force du destin, question. Est-ce que ça ne pourrait pas être chez un être parlant, dans un tête pour le bas des animaux, qui sont des êtres modernement parlants, hein, qu'est-ce que serait chez un être parlant cette chose très particulière qui est, je ne sais pas comment il faut dire, peut-être pas dire naissance, mais l'avenir d'une voix, une voix. Pour autant qu'il n'y a pas deux voix qui sont identiques, comme il n'y a pas, en référence au langage, deux féminins identiques. C'est au un par un. Ils ont entendu la même chose que le féminin, ce n'est pas l'état civil, évidemment, parce qu'autrement, si on se base sur l'état civil, on ne prend plus en compte du tout la dimension du langage, qui lui ne connaît absolument pas du tout l'état civil. Il n'en a rien à faire. Alors rien du tout. Donc on en revient à cette question-là. Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose qui soit un dire, justement, de l'être parlant, à partir du moment où on questionne à partir de ce quelque chose qui est en jeu dans le transfert et qui pourrait se dire de la façon suivante. Dès que je parle, dès que je chante, je réponds, en fait, c'est ma responsabilité, je réponds à un appel d'une voix, une voix qui est la voix de personne. C'est-à-dire que ce n'est pas du côté du son ou du sonore que ça se joue, ce serait du côté de ce trou, d'où, par exemple, le cri de faire entendre le silence. J'en ai parlé un jour. Comment articuler ça avec ce quelque chose qui est ce qui s'entend et non pas ce qui se pense et ce qui se comprend. Puisque dès qu'on le pense et qu'on le comprend, on rabat le signifiant sur l'effet de signifiant, c'est l'effet de signifiant, on rabat le signifiant, ce qui s'entend, sur l'effet de signifiant, c'est-à-dire le signifié, qui comprend plus en compte le signifiant, dimension signifiante. Et du coup, il faut le dire, parce que ça n'est jamais dit, du coup, toutes les références que sont l'objet à cause du désir sont balayées. À partir du moment où on est signifié, on peut construire dans la pensée tout ce qu'on voudra, on n'est plus dans l'objet cause du désir, on est dans l'objet du désir. J'insiste parce que c'est une confusion qui règne chez la plupart des psychanalystes. Et je pense que si je dis ça, c'est parce que j'ai une expérience de plus en plus importante de celle de dont j'essaie de vous parler, c'est-à-dire de ce qui se passe par là, je ne sais pas où, dans un corps, je n'ai pas dit dans le corps, mais dans un corps particulier, qui accepte de se soumettre à un poids, à ce qui est dans le langage, c'est ça les voyelles, signifiant, c'est ça. Et comment il est possible d'être dans une certaine docilité à ce qu'apporte le fait de se laisser guider parce qu'il peut tout à coup jaillir ce que j'appelais tout à l'heure brillant de la voix, qui peut tout à coup jaillir selon telle ou telle personne, selon là où il en est, dans son, dans son registre, sa tessiture, notamment selon l'aigu particulier, au moment où quelque chose, on ne sait pas comment ça se fait, quelque chose fait jaillir ce brillant. Parce que bien sûr, on a eu l'idée il y a longtemps, il y a plus de 100 ans, puisque en plus c'est à la mode ça maintenant, c'est ça le discours scientifique. Hein. On a quand même eu l'idée d'aller faire une autopsie, puis d'aller voir d'ailleurs ce que c'est que ces cordes vocales, d'un ténor extraordinaire, un français, je ne sais plus comment il s'appelle. On a été surpris, elles sont comme celles de tout le monde. Donc, ce que j'essaie de parler, c'est pas lié à quelque chose de statique. C'est pas lié au gène, déjà, premièrement, si on veut une méthodologie, premièrement. Et ça veut dire que c'est pour autant que on ne sait pas comment ça se noue, c'est un petit peu ce qu'on essaiera de voir cette année, mais si quelque chose peut fonctionner, je crois que c'est vraiment du tricotage, et c'est comme Lacan quand il tricote, c'est votre ficelle, son œuvre de méa au niveau du corps. Si quelque chose, on peut donner quelques références, voyons. Vous savez que ce qu'on appelle le corps, c'est pas du tout le réel avec Lacan. C'est pas le réel du corps, c'est pas du tout ça. En fait, l'imaginaire du corps, c'est l'imaginaire. Il part de là, ça que je vois, c'est l'image, l'imaginaire. C'est ça, l'imaginaire du corps. Si l'imaginaire du corps vient se nouer avec quoi? Avec le réel du bois, le réel de la mort. C'est pas du tout l'imagination de la mort. Le réel de la mort, ça prend au sens plutôt où tout ce qui fonctionne jusque-là fonctionne plus. C'est ça la dimension importante. Et puis, si tout ça, ça vient, ces deux dimensions-là, viennent s'entrelacer avec quelque chose qu'on va appeler cette espèce de sonnerie, de son qui est dans l'arrière-gorge fabriqué par les cordes vocales, alors, si tout ça se tresse d'une certaine façon, et pour y arriver, effectivement, il importe d'avoir, toujours un minimum de technique, bien sûr, ça s'apprend, tout ça, ça s'apprend plus ou moins rapidement, eh bien, ça va pouvoir créer ce brillant. Et donc, ce que l'on arrive à dire comme ça aujourd'hui, ce soir, c'est que ce qui caractérise une voix, c'est son brillant. C'est-à-dire sa couleur, c'est-à-dire sa richesse, c'est-à-dire la façon dont elle, dont elle diffuse. Hein, parce qu'à partir du moment où cette opération fonctionne, il n'y a, pas besoin de parler du laisser-choix, je ne sais plus comment appeler ça d'ailleurs. Ça jaillit, ça sort du corps, et ça traverse le cerveau, c'est pas évident, ça traverse tout ça en direction du spectateur. Il y a soit on a écouté et voir Élisée Lamour de Donizetti, le ténor, il chantait, il n'avait pas de voix, au sens où il n'en parle. Très connu, hein, il n'avait pas de voix, ça ne passait pas. Il n'y a que dans un aria particulier, qui est une musique extraordinaire, qui s'appelle Una Furtiva Lacrima, on a un peu entendu sa voix. Il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas envie de voix. La basse avait une voix. Il n'y avait pas de voix. Au sens où j'essaie d'en parler. Il n'y avait pas de corps. Il y avait beaucoup de grimaces de nuit. C'est un bon acteur de théâtre, peut-être, comique. C'est une comédie, hein. Il s'est rendu très bien. Il n'y avait pas de voix. C'est dommage. C'est un peu, c'était un ténor léger, mais vraiment super léger. Donc là, il avait par contre effectivement du coup une certaine agilité, une certaine vélocité, un certain art pour chanter dans les aigus, mais ça ne passait pas. Ça pose la question. Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que c'est de plus en plus fréquent. Ça pose des vraies questions. Hein. Pourquoi ça dérive comme ça? Je laisse là-dessus les gens. Il doit bien y avoir une raison. Le seul fait que ça dérive comme ça, ça montre bien que tout le discours scientifique dans lequel on est pris ne prend plus en compte quelque chose qui est cette dimension du langage qui est, je dirais, responsable d'un corps particulier qui a 100 ans. Et c'était d'une évidence en Italie, puisque la référence en Italie, on ne pouvait pas imaginer, il y a un certain nombre d'années, devenir chanteur d'opéra, donc ils ont pensé à Caruso et d'autres, sans la technique italienne. Mais la technique italienne, celle qui se transmet de maître à élève, pas celle qu'on dit qu'on transmet. Parce que ce n'est pas la technique italienne, c'est autre chose. Et ça, évidemment, ça ne sauve pas. Je vais quand même le dire là, hein. Non, ça se fait pas au conservatoire. Ah oui, tu vois pas comment le conservatoire ça pourrait être transmis. Le conservatoire ça sert à autre chose, à apprendre beaucoup d'autres choses, mais pas ça. La pratique dont je parle, ça se fait s'il faut trouver quelqu'un avec qui ça marche, et ce quelqu'un avec qui ça marche, il faut qu'il y ait quelque chose à transmettre de sa propre expérience, de ce corps dont j'essaie de parler, comme je veux. Alors. La grande question, ça revient là-dessus, pour moi, puisque ça a été mon péril, sur le nom de ce péril que je parle, c'est dans quelle mesure, ce qui est au cœur du transfert, ce nouage, le corps, hein, que Lacan va appeler réel, symbolique, imaginaire, hein, c'est pas de la pensée, ça. Hein. Faut pas croire qu'il suffit de savoir se débrouiller avec le nœud roméen pour avoir une expérience quelconque de ce qui se passe dans le transfert. Hein. Lacan a été fait de se tromper. Ça montre que ce n'est pas une histoire intellectuelle, hein, c'est autre chose. Ce nouage du réel, du symbolique et imaginaire dont on a parlé l'an dernier, dont l'important ce n'est pas qu'il soit trois, réel, symbolique et imaginaire, c'est qu'il fasse trois. C'est-à-dire qu'il y ait du trois. Il y ait du trois, et du coup, ça va faire glisser ce trois sur ce que l'on va appeler le 4, c'est le symptôme, plus tard. Bien, donc. Comment est-il possible que ce que j'essaie de produire comme je peux là ait un rapport avec l'être parlant? Parce que quand même, une analyse, ça se fait en parlant. Ça se fait pas du tout en écrivant, même si on est qui peut le penser. Ça se fait en parlant, et ça se fait avec un analyste, avec une personne, avec un corps, en sachant que on ne sait pas bien son lit quand on dit un corps. Il ne s'agit évidemment pas du corps tel qu'il est décrit anatomiquement et physiologiquement, même si celui-là est intervenu. Donc oui, on est là, dans la situation analytique, exactement pareil, et dans la situation de celui qui essaie de trouver cette voie dont je parle. Exactement la même. ça se fait ou un par un avec quelqu'un qui a une certaine expérience. Et qu'il est là pour quoi? Il est là pour entendre. Si les harmoniques dont je parle, le brillant dont je parle, il est possible de les faire jaillir, apparaître. Il sert qu'à ça. Et il est là, bien sûr, pour aider, pour donner des conseils, pour savoir comment respirer, etc., pour apprendre tout ça. Mais sa fonction n'est pas identique à celle du psychanalyste, bien sûr. Parle ce genre de choses, mais ça me semble quand même assez proche. Bien sûr qu'il y a des transferts, évidemment, mais pas des transferts sur la personne, c'est où ça va, hein. Des transferts sur ce savoir énigmatique. Mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas tous les mardis après-midi pendant 3 heures? Qu'est-ce que je fais? Prendre le train, je prends déjà le train lundi, je reprends le mercredi, et le mardi, j'ai rajouté. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est ça la question. C'est qu'il y a quelque chose là qui, puisqu'on est dans le soupir, qui transpire dans la pratique. Parce que tout ça, ça produit des effets dans la pratique du psychanalyste. Si ça ne produisait pas des effets, il faut vite arrêter, ça ne sert à rien. Mais il est évident qu'il y a quelque chose qui passe. Quoi? Et c'est ça l'objet cause du désir. C'est qu'on ne peut pas dire ce que c'est. Vous donnez l'exemple, la fameuse phrase comme ça. Je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Ben, il est là-dedans, l'objet. Il est où? Il n'est surtout pas dans la compréhension des quatre parties, surtout pas ça. Puisque la quatrième, hein, il y en a trois, je te demande quoi? De me refuser quoi? Ce que je t'offre quoi? Eh bien, l'objet. Ça, tout ce que j'ai dit dépasse. C'est-à-dire que l'objet, il est dans le ça n'est pas ça. Même ce n'est pas ça. Il est là. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand on sort sa formule là, qui va être. Il sort à différents niveaux, mais c'est dans les années qui nous intéressent, les années 70, 71, 72, 73. Ce qu'il dit, laissez glisser, laissez la ligne de champ. Je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que ça n'est pas ça. Il n'y a rien à comprendre. C'est ça l'objet, cause du désir. Et on est foutu de telle façon, on est obligé de se foutre, c'est le cas de dire, de telle façon qu'on se met à penser. Je te demande de refuser ce que je t'offre. Ah oui, alors, il y a la demande. Ah oui, tout ça, je comprends ça, oui, tout ça. Ah oui, mais c'est pas ça. Bon, alors, je repère, c'est mieux qu'on. Tout ça, c'est du bricolage. C'est du bricolage de la pensée. On est pétri là-dedans. On est obligé d'y passer. Mais, ça n'est pas ça qui est en jeu dans ce que Lacan va reprendre au linguiste qui s'appelle la métonymie. La métonymie, c'est-à-dire la jouissance. Ce qui conduit à la dimension de la jouissance en regard du langage, c'est pas le plaisir, hein, bien sûr. C'est que quand je dis ça, un peu comme quand je chante une phrase musicale, eh bien, il y a quelque chose qui fait corps, qui fait du corps, et qui peut, dans les meilleurs cas, faire ce brillant dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, à mon avis, j'en suis là. Voilà où est cette dimension de l'objet cause du désir. Et puis, bien sûr, en général, l'objet cause du désir, non, hein, on le rabat sur l'objet du désir. Voir ce qu'on va appeler l'objet du fantasme. Hein. C'est par exemple ce qui se passe avec la dimension sexuelle. On va différencier les hommes et les femmes, etc. Les caractères sexuels secondaires, hein, qui apparaissent sur le corps, qui vont. Ben oui, ça va produire des effets, ça. C'est quand même ce qui est attendu, hein. Suivant qu'on est d'un côté ou de l'autre, en sachant que finalement, c'est pas si évident de savoir si on est plutôt du côté, au sens de l'état civil, hein. Mâle ou femelle, c'est pas si évident que ça. Hein. Parce qu'en regard du langage, il n'y a pas justement cette différenciation. Et tout l'intérêt, ben, c'est de pouvoir accéder à cette dimension du féminin propre à chaque être parlant. À chaque être parlant, ce qui est tout à fait autre chose, et que
À mon avis, je pensais aussi David Lacan, qui est lié au fait de pouvoir entendre ce que j'essaie de dire, en sachant que c'est assez compliqué. Entendre quelque chose. Alors, la psychanalyse, évidemment, on peut d'abord parler de ça, comme ça. Pourtant, on peut trouver parfois des éléments de cet ordre. Bon, vous savez que ce que Lacan transmet, c'est le dire de Freud, c'est pas le dire, c'est le dire. C'est-à-dire ce qu'il est possible, justement, de trouver, et notamment cette chose qui apparaît très tôt, ça apparaît dans la conscience des rêves, cette chose particulière qui est le fait que le déroulement du sens, hein, on parle beaucoup du rêve, le déroulement du sens ne vise qu'une chose, c'est qu'à un certain moment, le sens s'arrête. Ce qu'il appelle l'unerkant. Il y a un point de non-reconnu radical qui va rapprocher de l'overdrain, c'est-à-dire de refouler, revient. C'est le réel. C'est le réel. Mais dès que je vous dis des choses comme ça, voilà un peu le tour de passe-passe, je suis dans le sens, et du coup, en voulant dire quelque chose, j'imagine, je dirais plus que ça, j'imagine la prise de réel. Donc je le trahis. Je le traduis, donc je le trahis. Donc je réduis quelque chose. C'est-à-dire que le sens, par définition, au plus proche du fait qu'il y a cette butée du sens, ne peut être que réducteur, pour autant que il ne peut pas prendre en compte le réel. Il ne peut pas, c'est pas possible. Tout simplement. C'est ça l'impossible. Par contre, la grande énigme, c'est ça l'importance de la ligne de voix, est-ce que le son peut le prendre? Et le son, au sens de la musique, c'est-à-dire au sens d'un certain nouage particulier lié à la présence dans la voix, plus particulièrement, je pense que c'est plus particulier dans la voix qu'au niveau d'un instrument de musique. Enfin, pourquoi pas, je ne connais pas très bien ça, l'instrument de musique, sur le piano, il y a de l'or ici. Mais ce que l'humain peut, on va dire, artificier, comme il y a le mot art là-dedans, artifice, c'est pas artifice. Ça peut artifaire quelque chose, en quelque sorte, avec ce corps dont j'essaie de parler là, hein, qui ne va pas apparaître sur un radio ni sur un scanner, ce corps. Hein. Il n'est pas question. Hein. Il apparaît tout d'un coup parce qu'il y a cette dimension brillante, je ne sais pas. Hein. Bien, ce corps-là, est-ce qu'il est possible qu'il ne soit pas rejeté? Il est possible qu'ils ne soient pas rejetés, puisque tout porte à ce qu'ils soient rejetés. Je vais vous dire comment ça se passe aussi au niveau du, à mon avis, au niveau du champ. Tout porte le chanteur, sauf si il, un peu comme celui qui prend la marche d'escalier pour monter là, hein, là. Qui prend la bande d'escalier pour monter les marches. Hein. Tout porte la voix, on va dire la voix, hein, à ce qui va être fabriqué comme son ne soit pas fabriqué devant, mais soit fabriqué au niveau du palais mou. Hein, c'est l'histoire de la balle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la balle ne rebondisse pas. C'est-à-dire que le son ne soit pas projeté à l'extérieur. Tout porte. Normalement, c'est même ça. C'est même tellement ça que de plus en plus ça se développe au niveau des chanteurs. Et que c'est très difficile de discuter de ça, normalement, parce que c'est un discours qui est censuré. Dans la mesure où on peut penser que, et bien finalement, quand on se commence à sortir, il y a un niveau. Parce que si d'autres artistes, quand ils sont connus, parce que partout, ils sont connus, ils continuent leur truc, on les demande que ce soit vraiment le brillant qui soit là ou pas, c'est même plus le problème. De toute façon, ils continuent leur carrière d'une certaine manière. Alors que pour que ça continue, ça, je parle, ce brillant, cette couleur, ces harmonies particulières, mais ça suppose quoi? Ça suppose que tous les jours, 60, 70 ans, on continue à s'entraîner, à faire de la respiration et chanter. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Parce que ce n'est pas un truc qui est acquis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'apparaît que si cet artifice qui a lieu au niveau du corps est possible. Et la grande énigme que je soulèverai pour cette année, c'est en quoi cette dimension-là, ce nouage, que Lacan va appeler le symptôme, le passage du symptôme au symptôme, c'est ça dont je parle là pour le moment. Hein. Comment c'est tellement même un symptôme que si on chante comme ça, véritablement, comme ça, en arrière, l'arrière, ben on va avoir des menus. J'aurais pu avoir, parce que justement, un voile apparaissait. Donc je suis bien placé pour en parler. Hein. Parce que c'est que je chantais un peu en arrière, ou je chantais vraiment devant, là. Le son se fabrique là. Et non pas, dès qu'il se fabrique en arrière, les cordes vocales, elles souffrent, parce qu'elles se mettent à vaciller, de toute façon, etc. Bon. Eh bien, quel rapport peut-il y avoir avec ce brillant et justement ce quelque chose qui finalement avec la compte peut appeler le symptôme. Parce qu'il y a d'une certaine façon ce qu'on peut appeler aussi la vie, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. Qui est quoi? Qui est, ben on va l'appeler encore autrement, il y a beaucoup de façons, puisque je vois il n'y en a pas une seule de dire. Qui est quoi? La mise en jeu du réel de la structure. On peut aussi dire ça. La mise en jeu du réel de la structure. Est-ce que le brillant, ça ne fait pas entendre le réel de la structure? Il y a quelque chose d'absolument insaisissable qui, il me semble, peut-être que je me trompe, ne peut que s'entendre. Ne peut surtout pas se penser. Impossible à penser. Ça peut s'entendre. Oui, l'intérêt, ça peut, je ne sais pas comment, ça fonctionne, parce que dans la situation analytique, dire un mot là-dessus quand même. Hein. Fait comme ça des allers-retours, c'est obligé, hein. Puis c'est très hérétique cette affaire-là. Monsieur, hérétique. Vous n'avez pas trouvé ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui parle, hein, qui bafouille comme il peut, qui revient, et on dit allez-y, mais n'hésitez pas à revenir là-dessus. Ce qui compte, c'est ce qui vient. C'est pas ce que vous avez déjà dit. C'est ce qui vient. Il va, il fait son truc, je te demande de répéter ce que je t'en prie de pas ça. Et le psychanalyste, il pense, oui, il comprend, oui, c'est effectivement parce qu'il a eu peur. Alors là, ça commence à pas bien aller, là. On n'est pas du côté de l'écho du désir, là. On est du côté de la pensée. Alors, si ça peut continuer comme ça, hein, si se met à parler, il y en a pas un qui pense pour lui, hein, derrière, hein, ben, il peut arriver quoi? C'est ça, là. Il peut arriver qu'il se passe quelque chose que l'analyste ne va même pas penser à l'analyste. Disons, celui qui est assis derrière l'autre, qui fait comme il peut sur le divan, puis ça peut être en face à face, c'est plus ça peut faire. Ben, il peut arriver que, en donnant l'autre à compter son truc, je te demande de refuser ce que je t'offre, mais il est pris comme ça par la mitonymie, par l'objet cause du désir, par la pensée. Hein. Donc, il déroule ces trucs-là. Des fois, c'est horrible, hein. Vous vous souvenez de ça, c'est horrible, hein, bien sûr. Il peut arriver quoi? Ben, il peut arriver que quelque chose se passe chez l'analyste. On a le souvenir, c'est un individu qui avait rapporté ça un jour de quelqu'un qui s'appelle, je crois, l'air, qui un jour se mit à essayer de chanter. Il y avait une mélancolie qui était complètement, ou un mélancolie, je ne sais pas, on dit souvent un mélancolie, peut-être, ça me rend trop de la une. D'un coup, c'est mis à chanter. L'analyste. Comme si elle, voilà, elle a répondu à quelque chose. C'est ça la voix qui venait de lui. La voix de personne. Et il semble que ça a commis des effets. Ce que je veux dire par là, c'est que Si l'analyste, lui, il est appris parce qu'il, par le signifié, c'est-à-dire parce qu'il entend, au sens du sens, par la direction du sens, hein, mais s'il est dans ce qu'on appelle la référence signifiante, hein, la métonymie, là, comme ça, hein, eh bien, s'il est là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va, on ne sait pas comment, sans qu'il le sache à son insu, j'insiste bien que ce soit à son insu, quelque chose va faire qu'il y a quelque chose qui va se tricoter, on ne sait pas comment. C'est ça le symptôme. Et qu'à ce moment-là, peut-être on pourrait dire ça, les références de Lacan, à ce moment-là, il est bien possible qu'il soit dans la position de quoi ? Du symptôme pour l'analyse. Cette position que Lacan dit comme étant celle de la femme, une femme pour l'homme. Lié au langage, et strictement au langage. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir.
Abandono.